Vous avez peut-être reconnu le choral du Veilleur de Jean-Sébastien Bach, qui est l'un des grands classiques de la musique luthérienne. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Paris, à Saint-Ignace, et nous célébrons l'attente de la venue du Christ survenu à Bethléem il y a 2016 ans. Nous faisons œuvre de mémoire, et notre mémoire est tournée vers l'avenir, vers ce qui est devant nous. Nous sommes sur l'arche du pont qui enjambe un immense espace de temps et nous marchons. Comment marchons-nous? Vers quoi marchons-nous? Nous avons devant nous deux événements annoncés, l'un à une date bien déterminée et l'autre dans un futur indéterminé. D'une part, la célébration prochaine de l'anniversaire de la naissance de Jésus à Bethléem, et d'autre part, l'attente de son retour à la fin du temps. Ces deux événements parfois se superposent et parfois se distinguent. Et c'est vers eux que le temps nous porte, vers eux aussi que le temps porte des foules immenses, visibles et invisibles, conscientes ou inconscientes, des temps présents, des temps passés, des temps futurs. Ces deux événements, de quelles promesses ont-elles fait l'objet ? De quelles promesses sont-elles aujourd'hui l'objet? Regardons tout d'abord de quelle façon la venue du Christ est présentée dans les évangiles, en commençant par le commencement de l'évangile de Marc. Je lis. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. » Ainsi, Marc commence son évangile en racontant comment Jean le Baptiste annonce la venue du Christ. Et pour expliquer la mission de Jean, il se sert d'une ancienne parole, de l'annonce de l'envoyé qui prépare un chemin dans le désert. Cette ancienne parole, on peut en trouver la trace dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. On la trouve en fait en deux endroits, dans le livre du prophète Malachie et dans le livre du prophète Isaïe. Malachie annonce ainsi la venue du Seigneur. « Voici, j'envoie mon messager. » Il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Isaïe aussi annonce la venue du Seigneur. Je lis, une voix proclame, dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair, ensemble, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix proclame dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Ce sont des paroles qui viennent de loin, qui ont été maintes fois lues et relues par le peuple juif, des paroles d'attente et d'espoir. Et ces paroles prennent tout d'un coup une actualité nouvelle dans le récit de Marc avec la venue du Christ qu'il nous raconte. Celui qui était attendu arrive. Il y a quelque chose de joyeux, peut-être même de triomphal dans cette annonce. Matthieu maintenant, dans son évangile, Matthieu lui aussi annonce la mission de Jean le Baptiste et il l'associe à l'annonce faite au temps des prophètes. Mais il le fait à sa façon. Il place ses paroles beaucoup plus tard dans le déroulement du récit, après l'arrestation de Jean par Hérode. Je lis, « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. » Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jean le Baptiste n'est plus en position de prêcher dans le désert puisqu'il a été jeté en prison. Mais il avait déjà rencontré le Christ puisqu'il l'avait baptisé et qu'il avait été témoin oculaire de ce qui s'était passé au moment de son baptême. Sans doute cherchait-il une confirmation de ce qu'il avait entrevu, et cette confirmation ne pouvait plus lui parvenir que par une parole du Christ que ses disciples allaient lui rapporter. Jean, dans sa prison, est dans une situation qui ressemble à la nôtre. Tout ce qu'il peut désormais apprendre sur le Christ ne peut lui être transmis que par une parole. Mais écoutons la suite. Écoutez quelle parole le Christ donne aux disciples de Jean. Jésus leur répondit : « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et un peu plus loin, Jésus poursuit. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau secoué par le vent ? Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits élégants ? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. » Surprise, ici, c'est dans la bouche de Jésus lui-même que Matthieu a placé la citation prophétique du messager qui prépare le chemin. « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. » C'est Jésus lui-même qui révèle aux foules quelle était la mission de Jean et qui, en leur révélant cette mission, leur donne à comprendre qui il est lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que les foules vont comprendre. Luc aussi, dans son évangile, associe Jean le Baptiste au messager qui prépare le chemin. Mais il procède encore autrement. Il met cette association dans la bouche de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui prophétise sur son fils le jour de sa présentation au temple, donc en un temps qui se situe bien avant les temps auxquels se réfèrent les récits de Marc et de Matthieu. Je lis. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, c'est Jean le Baptiste lui-même qui se décrit comme le messager qui prépare le chemin. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question : Qui es-tu ? Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara : Je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent : Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Il répondit : Je ne le suis pas. « Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? » Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il affirma « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ainsi, les quatre évangiles désigne Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, comme celui qui annonce qu'annonçaient les prophètes, comme le messager qui prépare le chemin, quoique de manière différente. Et ce chemin est le chemin du Seigneur. Tous les quatre nous disent, à leur façon, que Jésus est le Seigneur. Mais l'histoire du messager qui prépare le chemin vient de plus loin encore que des prophètes Isaïe et Malachie, ou du moins, elle se réfère à des choses plus anciennes. Dans le livre de l'Exode, Dieu parle à son peuple en route dans le désert. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. » Un ange, c'est-à-dire un messager, c'est le même mot ange, messager, envoyé. Mais dans le récit de l'Exode, le chemin que l'envoyé de Dieu prépare est un chemin tout à fait matériel, un chemin préparé, non pas pour le Seigneur, pour Dieu ou pour son Messie, mais pour le peuple, un chemin sur lequel le peuple marchera en sécurité, protégé par l'envoyé de Dieu. Alors, cette histoire du messager qui prépare le chemin s'adresse-t-elle en fait à la venue du Messie ou simplement à la marche du peuple dans le désert? Faut-il trancher? L'image de la traversée du désert était tellement présente dans l'esprit des Juifs tout au long de leur histoire que la venue du Messie peut fort bien se comprendre à la lumière de la traversée du désert. Pour ceux qui l'attendent, l'arrivée du Messie est quelque chose comme l'arrivée du peuple dans la terre promise, quelque chose comme l'événement longtemps attendu, l'événement qui donne naissance à l'existence et à toutes ces longues journées de marche portées qu'ils étaient jusque-là par la seule promesse, la promesse au bout du chemin. L'histoire du messager qui prépare le chemin est devenue une figure qui aide à comprendre ce que signifie l'arrivée du Christ dans le monde, qui aide à comprendre qui est le Christ et qui aide à le comprendre, non pas en disant qui il est, mais en rappelant comment sa venue a été annoncée au cours du temps et de l'histoire. Et Jean le Baptiste est ce messager pour les habitants de la Palestine au temps de Jésus. Il est pour eux le messager, l'annonciateur de la bonne nouvelle, angelos en grec. Et il annonce l'évangélion, la bonne nouvelle attendue. Cela se passait en Palestine il y a 2016 ans, et pour nous. Qui est le messager qui prépare le chemin du Christ dans nos vies? Qui prépare en nous l'attente de sa venue? C'est sur cette question que je voudrais que nous nous attardions un peu. Une première réponse, bien sûr, est que pour nous, les messagers qui préparent le chemin s'appellent Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, tous ceux dont les paroles sont conservées dans les livres du Nouveau Testament, et tous ceux qui reprennent et relayent ces paroles. Car nous sommes aujourd'hui comme Jean dans la prison d'Hérode. Tout ce que nous pouvons apprendre sur le Christ nous vient dans une parole, dans la réception et la médiation d'une parole. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pardonnez ce petit jeu, mais si je pense que les paroles que je prononce sont difficiles à comprendre, la question qui vient toute seule est: est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez mes paroles, mon discours? Est-ce que vous suivez les paroles de l'orateur comme l'on suit un chemin? Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que cela implique pour un orateur de dire « suivez-moi bien » ou pour un auditeur de dire « je ne vous suis pas » ? Pourquoi suit-on un discours ? À la différence d'une image que l'on peut saisir tout entière d'un seul coup d'œil, pour comprendre une parole, il faut cheminer avec celui qui parle. Il faut récolter fragment après fragment les petits morceaux de son qui sortent de sa bouche. Il faut les découper, les regrouper, les assembler, les construire pour enfin parvenir au sens de la phrase. On peut donner un coup d'œil, on ne peut pas donner un coup d'oreille. Celui qui écoute ne peut pas comprendre sans un travail, sans un engagement de sa personne dans l'écoute. Il ne peut pas comprendre sans mettre ses pas dans les pas de celui qui parle. Et c'est pour cela peut-être que la religion de l'Ancien Testament est aniconique. C'est peut-être pour cela qu'elle refuse, en principe, les images taillées, les images peintes, les représentations de Dieu et des êtres vivants. Pour rappeler aux fidèles que Dieu ne peut pas être saisi d'un regard dans une représentation, qu'on ne peut pas se l'approprier, mais qu'on ne peut être avec lui que par l'intermédiaire d'une parole. D'une parole dite et reçue dans un face-à-face qui se prolonge dans le temps, dans un dialogue qui jamais ne se termine. On n'arrête pas son regard sur Dieu. On écoute sa parole, on chemine avec sa parole. La parole s'inscrit dans un langage et le langage que je parle me précède. Là où je suis né, je me trouve plongé dans une langue, la langue de ceux qui m'environnent, la langue de mes parents, la langue de mes proches, la langue de mes camarades. Si je nais en France, j'apprendrai d'abord le français. Si je nais en Angleterre, j'apprendrai d'abord l'anglais. Si je nais en Allemagne, ce sera l'allemand, à moins que je ne vienne d'ailleurs, à moins que mes parents ne parlent une autre langue. Et là, les choses vont se compliquer pour moi et mon rapport au monde va devenir difficile. Car le langage est là, avant moi, comme un chemin sur lequel je suis placé. Je reçois des mots et avec ces mots reçus, je comprends les paroles que l'on m'adresse et je peux en produire de nouvelles, comme des pas nouveaux sur le chemin sur lequel ceux qui m'ont précédé ont marché. Je reçois des phrases et avec les phrases que j'ai reçues, je peux en produire de nouvelles, comme les outils de la boîte à outils avec laquelle je vais construire ma place dans le monde. Rappelons-nous que dans le jardin d'Éden, la parole vient d'abord. Elle vient avant l'acte de l'homme. Après avoir façonné l'humain, Dieu plante un jardin. Il place l'humain pour cultiver le sol et pour le garder. Et il lui parle. Je lis, « Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Et c'est alors seulement que l'humain peut commencer à faire quelque chose. Ce qu'il fait a désormais un sens. Doué de parole, l'homme est ainsi radicalement différent des animaux qui vont venir lui tenir compagnie quelques versets plus loin. Doué de langage, l'homme va pouvoir désormais aller de l'avant, regarder vers l'avenir, faire des choix, heureux ou malheureux, s'engager dans une voie ou une autre. Et c'est pourquoi il est important que parmi les paroles que l'on reçoit au cours de notre existence, parmi les paroles qui nous forment, figurent celles qui ont été consignées dans nos Bibles. Et c'est pourquoi il est important de raconter les récits que contiennent nos Bibles et d'y revenir souvent, même si ces récits ne sont pas toujours glorieux. Mais justement, la Bible ne contient qu'un seul héros totalement positif, c'est Dieu, Père, Fils et Esprit. Et c'est exprès. Il n'y a qu'un Dieu, l'unique. Tous les autres personnages de la Bible sont des humains, de pauvres humains, avec leurs qualités et leurs misérables combines. Et c'est à travers cette humanité que s'écrit l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont et il les accompagne. J'aimerais à ce propos vous lire une remarque légèrement irrévérencieuse que nous livre Luther dans ses propos de table. J'exhorte tout chrétien pieux à ne pas se troubler ni se mettre en peine s'il rencontre dans la Bible des discours et des histoires qui le choquent. Qu'il réfléchisse que ce qui peut lui paraître bas ou étrange émane toujours de la souveraine majesté, puissance et sagesse. L'Écriture contient des langes et des haillons dont l'aspect est misérable, mais ils enveloppent Jésus-Christ tel qu'il était dans la crèche. Autrement dit, pour Luther, les histoires peu respectables de l'Ancien Testament sont comme les couches qui enveloppent l'enfant Jésus dans sa crèche. Ce n'est pas de ce qu'elles contiennent qu'il faut s'indigner, mais de la personne qu'elles habillent qu'il faut s'émerveiller. Elles sont, si l'on veut, le terreau sur lequel pousse le grand arbre de l'alliance et du don de Dieu. Lire, écouter toutes ces histoires nous permet de donner un nom à ce qui nous arrive ou à ce qui se passe autour de nous, de reconnaître les figures, de leur donner un sens. Cela permet de nous dire, par exemple, « Tiens, cette histoire, c'est un peu comme l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ou comme l'histoire de David et Michal, ou comme l'histoire de Jephthé et sa fille, etc. » Cela nous permet de comprendre notre vie, de comprendre ce qui nous arrive, comme le terreau dans lequel va germer et s'épanouir la parole de Dieu en nous, la promesse de Dieu pour nous. Peut-être est-il important d'insister sur la parole, orale ou écrite, dans un monde où la parole tend de plus en plus à céder la place à l'image, à l'affiche, à la vidéo, à la réalité virtuelle, au schéma, au signal, à l'icône. N'est-il pas paradoxal de voir ce mot icône, ce mot tellement chargé d'histoire, de piété, de ferveur et d'émotion, de voir ce mot d'icône désigner des petites images d'une désarmante simplicité et dont la seule fonction est de permettre de communiquer une information sans faire appel au langage articulé, de permettre de communiquer en se passant des langues des différents peuples et des différentes cultures qui occupent la planète, de pouvoir faire quelque chose à une machine sans avoir à formuler ce que l'on veut qu'elle fasse. Notre monde mondialisé nous propose de faire de plus en plus de choses en appuyant sur des boutons ou en cliquant sur des icônes ou des mots codés, en jouant avec une souris ou un joystick, en faisant des gestes devant une machine, etc. Le signal remplace le langage. L'homme est poussé à perdre ce qui le distingue de l'animal. Le langage lui-même s'appauvrit parfois à l'extrême, ainsi qu'on peut le constater, par exemple, en écoutant parler le nouveau président américain. C'est une façon pour les industriels d'éliminer les frontières culturelles et linguistiques qui fragmentent le monde et surtout qui fragmentent les marchés. C'est, si l'on veut, un retour au fantasme des hommes qui ont voulu construire la tour de Babel. Je lis « Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Si l'on remplaçait dans le texte de la Genèse une ville et une tour dont le sommet touche le ciel par un marché mondialisé dont l'étendue couvre toute la surface de la terre, on aurait une assez bonne idée de l'une des dimensions les plus inquiétantes de la mondialisation. L'homogénéisation des pratiques de la vie quotidienne et la suppression de l'enracinement de chacun dans une langue, une culture, une histoire. Même si la question de l'enracinement se pose d'une façon aiguë aujourd'hui dans un monde de migration imposée ou subie, et même si peu de solutions acceptables émergent des discours qui se multiplient autour de nous, n'en demeure pas moins, pour chacun, le besoin de partager son expérience avec d'autres, de raconter cette expérience avec des mots et de la confronter avec d'autres expériences, racontées, elles aussi, avec des mots et des phrases, d'autres expériences avec lesquelles on se trouve en proximité, avec lesquelles on a des choses en commun, des choses à partager. De ce point de vue, la dispersion des hommes et la différenciation des langues n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Elle donne à chacun des proches à distance humaine, des proches avec lesquels partager est possible, des proches face auxquels ma propre vie devient une histoire que je peux raconter, que je peux me raconter. Avec Paul Ricoeur, on peut dire « Je suis le récit de ma vie ». Le récit biblique ouvre pour moi la possibilité d'un dialogue avec le récit de ma propre vie, avec le récit de la vie de mes proches, avec d'autres récits qui me concernent. Cette fin pour le récit des détails de la vie des personnes est sans doute l'une des raisons du succès énorme et déraisonnable de la presse People aujourd'hui. On y parle, d'une façon convenue et aguichante, d'épisodes insignifiants et plus ou moins réels de la vie de star d'un jour, vite oubliée le lendemain. Les récits bibliques sont évidemment le contraire. Ils s'enracinent dans le temps. Ils ont été lus et racontés et expliqués génération après génération. Et ces récits et ces explications font partie d'un patrimoine culturel qui se transmet d'âge en âge et qui fournit à ceux qui les entendent, à ceux qui les reprennent à leur compte, un point d'ancrage, un enracinement, une permanence dans un monde où tout change, dans un monde où ni le lieu de résidence, ni le lieu de travail, ni le contenu du travail, ni même le métier ne peuvent réellement échapper au changement. Et ces récits sont traduits dans la multitude des langues du monde, de façon à permettre à chacun de se les approprier à l'intérieur même de sa propre culture et de développer avec eux la même familiarité que celle que l'on peut avoir avec les membres de sa propre famille, d'entrer en dialogue avec eux comme avec des voisins ou des amis de longue date. Et c'est ainsi que l'arrivée de Jésus est annoncée avec des paroles familières et que les quatre évangiles sont d'accord pour reconnaître en Jean le Baptiste celui qui prépare pour lui un chemin par ses paroles. Jean le Baptiste ne manie pas le bulldozer ou la pelleteuse, il annonce un chemin nouveau avec des paroles anciennes. Et c'est un chemin qui se construit dans la tête et le cœur de ceux qui l'écoutent. Et c'est aussi ce que font pour nous les auteurs des évangiles et des épîtres. Et nous pouvons dire, comme Luther, encore une fois, « Oh, qu'il est beau et heureux d'avoir devant soi la parole de Dieu. L'on peut alors en tout temps être dans l'allégresse et dans la sûreté. L'on ne peut manquer de consolation. L'on voit dans toute sa clarté le chemin de la pureté et de la droiture. Devant soi, dit Luther, comme quelque chose qu'il faut suivre, la parole de Dieu devant nous comme un chemin. Et je ne résiste pas à partager avec vous un merveilleux petit passage du livre des Proverbes et à donner une lecture un peu orientée. Je lis. Voici trois choses qui me dépassent et quatre que je ne comprends pas. Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire en haute mer et le chemin de l'homme vers la jeune femme. Le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire en haute mer ne laissent pas de traces. Ils sont donc incompréhensibles et il n'est pas utile de chercher à les comprendre. Il n'en va pas de même pour la parole consignée par écrit, enregistré dans la mémoire et raconté de génération en génération. Une parole qui est à la fois trace et promesse et qui, pour cela même, mérite que l'on s'y attache. Quant au chemin de l'homme vers la jeune femme, quelle meilleure image trouver pour le chemin mystérieux de l'âme du croyant vers son Dieu. Pour ce chemin, qu'il ne s'agit pas de comprendre, mais simplement de parcourir, de vivre. Et pour conclure, nous pouvons nous rappeler cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus, parole de Dieu faite chair, nous appelle à le suivre et se fait pour nous chemin. Merci.